Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Je suis Mélanie Wanga. Barack Obama qui traite Donald Trump de crétin total et complet.
How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit.
Ou, encore plus étrange, l'actrice Jennifer Lawrence qui répond aux questions des journalistes durant la cérémonie des Golden Globes, mais avec un visage rappelant étrangement celui de l'acteur Steve Buscemi.
My favorite is probably Lisa Vanderpump.
Il y a quelques mois, ces vidéos de célébrités ont beaucoup circulé sur le web pour leur contenu surprenant. Il faut dire qu'il y avait de quoi. Et pourtant, ces images sont truquées et elles ont un nom, le deepfake, soit le faux approfondi. Une technologie rendue possible par l'intelligence artificielle et qui a de beaux jours devant elle. Le deepfake, c'est une manipulation qui permet de combiner ou de superposer des images sur d'autres images. Et donc, de créer de fausses vidéos qui ressemblent à s'y méprendre à la réalité. Mais il existe également des deepfakes auditifs, qui permettent de faire dire tout et son contraire à n'importe qui. Par exemple, savez-vous que Donald Trump adore l'émission que vous êtes en train d'écouter ?
Love Program B. Great, great podcast. Big Rozek fan. Huge.
Les deepfakes s'apparentent à des sortes de cousins futuristes des fake news, les fausses nouvelles, qui polluent nos flux de réseaux sociaux à longueur de journée. Mais leurs implications sont encore plus flippantes, et elles touchent presque à la propagande. On commence déjà à voir fleurir des vidéos de deepfakes pornographiques ou politiques. Alors, sera-t-on mis un jour face à des deepfakes de crimes accusant des personnes à tort ? Une fausse sextape d'Emmanuel Macron ? Comment discerner le vrai dans une fausse vidéo qui a l'air 100% réaliste ? En bref, les deepfakes vont-ils forcément faire de notre vie sur Internet un enfer ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Aujourd'hui, les deepfakes sont ultra réalistes. Mais comment en sont-ils arrivés à ce degré de précision ? J'ai posé la question à Lucie Ronfaux, journaliste au Figaro Tech et autrice d'un article sur « This person does not exist »,« Cette personne n'existe pas » en VF, une intelligence artificielle qui crée des visages plus vrais que nature.
Alors, donc, This Person Does Not Exist, c'est un site qui a été créé par un ingénieur de beurre qui bosse pas spécialement sur l'IA, mais qui s'intéressait au sujet à titre personnel. Et en fait, donc, son site, comme vous l'expliquiez, à chaque fois qu'on appuie sur la touche F5, chaque fois qu'on rafraîchit, il nous propose une photo d'une personne qui n'existe pas, en fait, qui a été créée par des programmes d'intelligence artificielle. Alors, ce site, en fait, il utilise un logiciel qui a été développé par Nvidia, qui est une société qui se spécialise dans les cartes graphiques qui sont des composants qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle. Et ce logiciel s'appelle StyleGAN. Il exploite ce qu'on appelle des réseaux antagonistes génératifs. Je regarde mes notes parce que je ne veux pas me tromper. Et donc ça, en fait, c'est un nom un peu barbare pour parler d'une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique qui sont en fait un type d'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est qu'avec ces réseaux antagonistes, on a donc deux réseaux, enfin deux programmes d'intelligence artificielle. Le premier, il est aveugle. En fait, on lui donne des données et on lui donne une instruction, on lui dit « créer un visage humain ». Donc il va, à partir de ses connaissances, qui sont très minimes puisqu'il est aveugle, essayer de reconstituer un visage humain, ce qui comprend être un visage humain. La deuxième intelligence artificielle, elle, sait ce que c'est un visage humain, parce qu'elle a une base de données qui est vachement plus construite, si vous voulez. Et du coup, ça va être à elle de juger si le travail du premier réseau est correct ou non. Donc en gros, le premier algo il dit bah voilà, j'ai créé un visage humain, qu'est-ce que t'en penses? Et le deuxième réseau dit vrai ou faux. Si c'est vrai, c'est bon, si c'est faux, il recommence. Et ça c'est super intéressant et ça produit en fait des résultats extrêmement réalistes parce que du coup, dans les intelligences artificielles, pardon, généralement c'est plutôt le scientifique qui a tendance à donner des instructions à une machine, à lui dire ça c'est correct, ça c'est pas correct, et ça prend beaucoup de temps parce qu'une machine c'est pas un homme et il y a besoin d'extrêmement de beaucoup d'instructions. Là c'est la machine qui se charge elle-même de faire ses instructions.
Qui s'éduque elle-même en fait.
Voilà, qui s'éduque elle-même. Et c'est en ça que les résultats sont extrêmement impressionnants. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur le site, hein, c'est vraiment assez bluffant. Et c'est pour ça en fait que les réseaux antagonistes sont énormément associés au deepfake, qui est le sujet.
Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une petite définition des deepfakes? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend, on commence à en entendre parler et ça fait peur. Donc dites-nous ce que c'est un deepfake.
Oui, ça fait peur. Alors le deepfake, en fait, c'est la rencontre du deep learning, donc l'apprentissage automatique, hein, dont on parlait, qui est un domaine de recherche de l'intelligence artificielle, et du fake, ce qui est faux. Donc en gros, le deepfake, c'est le nom qu'on va donner aux techniques d'IA qui vont permettre de créer des fausses images à partir de vraies. Alors par exemple, un deepfake...
Comment on crée un deepfake en fait?
Alors, par exemple, le site BuzzFeed en 2018 a créé une vidéo deepfake qui avait beaucoup fait perdre l'aile, où on voyait Barack Obama, donc ancien président des États-Unis. C'était une vidéo dans laquelle il parlait, dans laquelle il traitait Donald Trump d'imbécile. En gros, BuzzFeed avait plutôt fait ça bien, avait publié la vidéo sans trop donner d'indications et indiquait à la fin de la vidéo qu'elle était fausse. Et si on la regarde, c'est vrai qu'elle est assez bluffante. On voit Barack Obama qui parle, ses gestes sont naturels. En fait, il s'est avéré que cette vidéo était un deepfake, c'est-à-dire que BuzzFeed avait utilisé une vidéo de Barack Obama, plein d'images de Barack Obama, et des vidéos d'acteurs dont ils avaient filmé les lèvres, en fait, Donald Trump est un crétin. D'accord. En l'occurrence, c'était un acteur, c'est Jordan Peele, qui lui, du coup, a prêté sa voix. Donc la voix n'était pas fausse, hein, c'était la voix d'un vrai acteur. Mais le résultat est assez bluffant. Et c'est vraiment comme ça que ça marche, le deepfake, c'est qu'on prend des images qui existent. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez apprendre à danser, vous prenez des images d'un danseur, une danseuse étoile. Vous prenez ensuite un très grand nombre de données visuelles sur une autre personne, ça peut être des vidéos, des photos, etc. Et vous arrivez à associer les deux par les méthodes de réseau antagoniste dont on parlait. C'est-à-dire qu'on a deux réseaux à qui on va dire associe ces deux images et fais comme si c'était naturel. Et donc, pendant un temps, ça va mouliner. Le deuxième réseau va dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, jusqu'à obtenir un résultat tellement plausible qu'il est considéré comme presque humain par l'IA.
Est-ce qu'il y a un moyen de détecter qu'une vidéo est un deepfake ou qu'une vidéo ne l'est pas?
Alors, c'est un vrai sujet, hein, c'est assez compliqué. Alors, il y a certaines choses pour lesquelles les machines ne sont pas bonnes. Hein. L'exemple des visages, il est assez frappant, mais en fait, quand on y réfléchit, il y a énormément de photos de visages en fait, sur Internet. Donc, une machine peut assez facilement, peut les imiter.
Il y a
de la matière. Après, il y a certaines choses qu'ils ne savent pas faire. Typiquement, les yeux, c'est plutôt une bonne méthode pour repérer si une vidéo est fausse ou pas. Parce qu'une machine comprend pas trop, en fait, arrive pas trop à imiter nos expressions dans les yeux. Donc généralement, une vidéo deepfake, on se rendra compte que les yeux sont un peu vides, ils regardent un peu ailleurs. Pareil pour la bouche, c'est rigolo, une machine ne comprend pas trop comment ça marche, nos dents, nos gencives. Alors parfois, par exemple, dans le site, This Person Does Not Exist, on voit des gens qui sourient, ils ont que des gencives, ils ont pas de dents. Parce que la machine, une machine c'est bête, hein, faut vraiment le dire, une machine c'est bête et ne comprend pas comment ça marche et essaye d'imiter, et parfois ça se plante. Donc ça, c'est une bonne technique. Après, c'est plus en termes de... Mais ça, c'est les mêmes conseils qu'on peut donner sur les fake news en général. Hein, c'est faire attention à la source, faire attention de là où elle provient. Mais bon, une vidéo deepfake, c'est une deepfake parce qu'elle est convaincante. Hein,
ouais,
c'est le principe.
Est-ce que vous avez peut-être un ou deux exemples de manipulation et d'usage, on va dire, dangereux des deepfakes? Parce qu'on entend souvent parler de problématiques assez graves autour
des deepfakes. Oui, bien sûr. Alors, le gros sujet qui inquiète actuellement dans le deepfake et à juste titre, c'est le porno, le porno deepfake. Alors à différents titres, en fait, il y a un ou deux ans, il y a Reddit, le forum américain, qui a hébergé un sous-forum qui était dédié au deepfake pornographique, dans lequel en fait des internautes s'amusaient à prendre des photos, enfin à prendre des célébrités et en fait coller leur image sur des vidéos porno de manière assez réaliste grâce à du deepfake encore une fois, pour en gros voir, je sais pas moi, Scarlett Johansson en train de en train de coucher, quoi. Et donc ça, c'est un vrai risque et c'est un vrai truc qui existe. Alors, c'est un risque qui vise beaucoup les célébrités parce qu'en fait, quand on y pense, il y a encore une fois, hein, une IA, ça a besoin d'énormément de données pour réussir à avoir un résultat réaliste. Or, qui est plus filmé, voilà, qui est plus filmé et qui est plus photographié qu'une célébrité. Donc, effectivement, il y a eu des cas de deepfake pornographique. Et le problème est tel que ça a été interdit officiellement, alors déjà de Reddit, mais aussi de plusieurs sites pornographiques comme Pornhub, par exemple, qui a officiellement
interdit les deepfakes.
Ouais, en disant, en reconnaissant que c'était un problème, parce que même ces vidéos sont fausses.
C'est l'image de la star.
Voilà, éthiquement, c'est extrêmement gênant. Déjà, ça peut être fait à des fins, d'humiliation, etc. Mais puis, bon, c'est pas son corps, en fait. Moi, ça me fait beaucoup penser au Celeb Gate, je sais pas si vous vous souvenez, c'était
oui,
cette histoire
où ils avaient hacké, les hackers avaient hacké
des photos nues de stars. Sauf que là, on arrive à un stade supérieur, c'est qu'on crée nous-mêmes ce contenu. Ceci étant dit, ce risque ne vise pas que les célébrités, il vise aussi les particuliers, hein, vous, moi, d'autres personnes, pour la simple raison qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on publie énormément de photos et de vidéos de nous sur Internet. Et qu'en fait, il existe énormément d'outils de ce qu'on appelle des crawlers. En fait, c'est des machines qui sont capables de reconnaître ton visage et de chercher toutes les images qui ont ton visage et ensuite d'en faire ce que tu as envie d'en faire. En l'occurrence, potentiellement, ça peut être utilisé à des fins de revenge porn. Le revenge porn, c'est littéralement le porno vengeur, c'est l'utilisation d'images intimes à des fins d'humiliation d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagnonne. Et là, en l'occurrence, c'est extrêmement vicieux parce que c'est du revenge porn de porno qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'images qu'on a vraiment filmées, on prend des fausses images, on y colle soit une photo d'un ex, soit d'une autre personne d'ailleurs.
Sachant que le revenge porn, en plus, est puni par la loi maintenant.
Alors maintenant, c'est difficilement applicable, mais oui, c'est de plus en plus. La loi a mis du temps
à rattraper l'usage. Ouais.
Et c'est ce qui inquiète un peu dans le deepfake, c'est que là, on vient à peine de comprendre ce qu'est le revenge porn et de le faire considérer par les législateurs aux États-Unis, en France.
Déjà, il y a une nouvelle étape qui s'ajoute.
Il y a déjà une nouvelle étape. Et c'est déjà utilisé. Alors, il y a l'exemple d'une journaliste indienne dont je n'ai plus le nom, mais en gros qui s'était opposée, elle s'appelait Rana Ayoub, c'est ça, Rana Ayoub, et c'était une journaliste d'investigation qui s'était opposée à Narendra Modi, qui est le chef d'État indien, et en gros elle a fait l'objet d'une vidéo de deepfake pornographique dans lequel c'est des gens qui voulaient l'humilier et qui ont mis sa tête sur une vidéo porno comme ça pour la diffuser en disant regardez c'est une femme immorale, elle couche, etc. Et donc ça existe. Alors
mais ça a été prouvé que c'était une vidéo deepfake, du coup.
Oui, c'était pas elle. C'était pas elle. Alors après, encore une fois, les progrès sont impressionnants. La plupart du temps, quand vous voyez une vidéo deepfake, notamment pornographique, c'est pas toujours très, très réaliste. Hein. Je crois que c'est une journaliste de Vice qui s'était amusée à créer son propre deepfake pornographique et clairement, il y a des ratés. La machine comprend. Elle comprend pas, quoi. Donc, on peut se rendre compte que c'est du deepfake, mais n'empêche que c'est quand même super flippant, en fait.
C'est très dur de voir ça quand on en est la victime. Clairement.
Et puis que pour la victime, c'est affreux. Et surtout, on imagine dans quel état sera cette technologie dans 5 ans, quoi.
C'est ça. C'est ma question suivante. En fait, les deepfakes, quelle influence ça va avoir dans notre vie sur Internet dans les 5 prochaines années ?
Ça va en avoir. Alors comment ? C'est difficile à savoir. Je pense qu'on s'est tous habitués à un certain niveau de faux sur Internet. On retouche tous nos selfies, on met des filtres sur Instagram, les applications de selfies, par exemple, qui retouchent automatiquement son visage, c'est une forme de fake, hein. C'est du Photoshop.
Facetune et compagnie.
Voilà, Facetune, des trucs chinois comme Meitu et compagnie. Instagram qui met aussi des fils. Donc on s'est habitué à un certain niveau de faux et on perçoit pas forcément à quel point ça nous affecte, à quel point on garde en tête que c'est faux. Typiquement, il a été prouvé que y a beaucoup d'adolescents qui développent des troubles alimentaires du comportement parce que ils sont tellement exposés à ces fausses images qu'ils finissent par croire que c'est ça encore alors que c'est pas le cas. Ouais. Donc c'est difficile à dire. Je pense qu'il va falloir beaucoup éduqué. La manière positive de le voir, c'est que au début du cinéma, les gens ont, enfin par exemple, le premier film, le film du train là,
l'arrivée en gare,
voilà. Ouais. Tous les gens sont partis de la salle parce qu'ils ont eu peur que le train leur débarque dessus. Peut-être que ça fera un truc comme ça, c'est qu'au départ on en a peur puis qu'on va finir par
l'adopter, comprendre.
Le comprendre. Après, la manière moins positive de le voir, c'est qu'on galère déjà à repérer les fake news. Le terme fake news qui désigne plein de trucs en fait, mais
Oui, les fausses informations qui circulent, les fausses informations,
les montages aussi. Hein. Il y a plein de montages grossiers qui nous paument, parce qu'en fait, l'essence même des fausses informations, c'est qu'on veut y croire. Parce que ça répond à notre, à nos valeurs, à nos opinions politiques, etc. Donc on peut imaginer qu'un jour on voit un deepfake. Par exemple, j'aime pas Donald Trump. Moi, je vois une vidéo de Barack Obama qui dit Donald Trump est un crétin. Même si c'est du deepfake, peut-être que au fond de moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, Obama a dit que Trump était un crétin.
Ouais. Donc là, on a vu le porno, on a vu peut-être même effectivement la santé publique et maintenant la politique. En politique, ça va être quelque chose.
Absolument. Une arme, ouais. Ah ouais, ça va être une vraie arme.
Puissante.
Et on a parlé du deepfake en vidéo et en photo, mais dans la voix aussi, ça arrive. Hein, les
deepfake audio, du coup.
Ouais, des logiciels qui sont capables d'imiter. Il y a une application là qui est sortie récemment qui permettait de récupérer, de faire dire n'importe quoi à Mark Zuckerberg. Et c'est vraiment un logiciel qui est capable. Encore une fois, tout est une question de données. Mark Zuckerberg est une personne extrêmement publique. Dont les déclarations ont été largement documentées. Donc, on peut maintenant créer un logiciel qui me fait parler comme Mark Zuckerberg. Alors, imagine, selon le logiciel, quelle lumière téléphonique ou juste j'ai envie de convaincre des investisseurs d'investir dans ma boîte. Et
bonjour,
je vais parler
c'est Marc, voilà. Et je laisse un message sur le répondeur.
Et cette startup est vraiment super. c'est un exemple un peu bête, mais c'est ce genre de risque auquel on... Donc là, je parle de Mark Zuckerberg, mais on peut penser à Emmanuel Macron, à tous ces personnages politiques qui sont extrêmement exposés et qui, eux, seront les premières victimes ou peut-être les premiers utilisateurs, d'ailleurs, de ce genre de technologie de manipulation.
Ouais, donc il faudrait trouver des moyens de pouvoir, malgré tout, garder une espèce de limite entre les deepfakes et la vérité. Ce serait le rôle des médias, peut-être ?
Le rôle des médias, le rôle de la tech aussi. Il y a des logiciels actuellement qui sont capables de vous dire quelle image a été manipulée, quelle vidéo a été manipulée. Donc ça va sans doute se développer. Après, moi, je pense vraiment que l'arme contre la nocivité de la tech, c'est vraiment les hommes. Hein. C'est à nous.
Donc
vraiment
nous.
C'est nous. C'est nous, c'est nos enfants, c'est gens après nous peut-être, mais qui vont devoir apprendre, parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais bon, voilà. Enfin, typiquement, quand on regarde les fausses informations, je ne sais plus quelle étude qui disait que les personnes de plus de 50 ans avaient plus tendance à tomber dans le panneau des fausses informations que les personnes plus jeunes, sans doute parce que les personnes plus jeunes ont grandi avec Internet, ont plus l'habitude de questionner ce qu'elles voient sur ce médium, donc peut-être que ça sera pareil. Là, je suis un peu optimiste, hein, c'est difficile à dire.
Véronique Auberger est chercheuse au CNRS, au laboratoire d'informatique de Grenoble, spécialiste de l'intelligence artificielle et notamment des émotions dans les interactions humaines avec des applications en synthèse vocale expressive. Je l'ai interrogée sur son travail dans l'usage de la synthèse vocale et plus spécifiquement sur les deepfakes audio.
En fait, ça fait un moment qu'on fabrique des voix synthétiques en prenant des morceaux de voix naturelles. Donc ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on peut... Les proches reconnaissent facilement l'identité vocale de quelqu'un. Il n'y a pas de sosie vocaux. Il y a plein de gens qui ont des voix assez similaires, mais par contre, quand on est dans un cercle restreint, on reconnaît la voix des gens qui sont autour de nous.
D'accord.
Même s'il y a des sosies dans le monde qu'on pourrait confondre avec les gens qui sont à côté de nous, on ne les connaît pas. Donc dans notre cercle, c'est bien eux. Et ces voix-là, depuis très longtemps, on sait extraire depuis les données naturelles des personnes, on sait extraire des morceaux, découper des petits bouts, les recoller, si vous voulez, et fabriquer des énoncés, des phrases que les personnes n'ont jamais prononcées.
Ah, d'accord.
Ça fait très longtemps qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant des années de fabriquer des voix de rien du tout, à partir de rien, puis on n'y est pas arrivé. Donc on fait exactement comme on fait en IA aujourd'hui, depuis 20 ans, en synthèse de la parole, hein, on avait déjà un petit peu annoncé ce qu'on fait en IA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne fabrique rien, on prend des choses de la nature et on les généralise. C'est vraiment, à mon avis, hein, selon mon analyse, l'état de l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a renoncé à vraiment mettre beaucoup d'énergie dans la modélisation et la compréhension des phénomènes naturels pour essayer de les modéliser, de les reproduire. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des données naturelles et on les brasse dans tous les sens pour les rendre encore plus générales que ce que la nature avait fait, mais sans comprendre pourquoi. Hein, c'est bien pour ça que le mot qu'on associe à l'IA maintenant, c'est data, big data. Et donc, on voit bien que l'or de l'IA, c'est des données qui sont produites par la nature, c'est-à-dire par l'homme en majorité.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la synthèse vocale ?
Alors la synthèse vocale, c'est comme dans le film Her, c'est le fait d'avoir des voix qui ne sont pas produites directement par des humains, qui disent ce que un algorithme ou ce que vous si vous tapez un texte et que vous avez un synthétiseur vocal, eh bien une voix que vous pouvez choisir va prononcer ce texte et vous pouvez fabriquer automatiquement des phrases quand vous êtes dans un système de dialogue avec Siri, avec Google Home, etc. Eh bien les voix qui fabriquent qui donnent cette impression acoustique que quelqu'un parle sont des voix de synthèse vocale.
C'est vrai qu'on parle souvent des usages négatifs des deepfakes, notamment les détournements à usage pornographique ou à des fins politiques. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des utilisations qui pourraient être plus positives dans d'autres domaines ?
En fabriquant de la synthèse vocale, on peut faire des choses assez chouettes, comme par exemple, c'est ce que fait une société qui s'appelle Voxygen depuis des années, on peut faire des prothèses vocales. Si vous avez perdu, vous allez perdre vos doigts. Eh bien, avant de perdre ma voix, je pourrais enregistrer plein de phrases. Et un synthétiseur, après, me permettrait, je tape le texte et c'est ma voix qui fabrique ce que j'ai à dire. Vous voyez ?
D'accord. Ok.
Très bien. C'est ma propre, mon propre fake, quoi. Effectivement, c'est pas moi qui ai parlé quand j'ai tapé le texte aujourd'hui, mais c'est ma voix d'il y a 3 ans. Qui me permet de faire ce que moi je voudrais faire. Donc c'est du fake, mais du fake utile, quoi. Vous êtes muet, vous parlez, vous êtes handicapé, vous avez une voix de synthèse, etc. Vous êtes Steve Hawkins, vous ne pouvez pas parler, vous avez votre synthèse vocale qui fait votre voix, quoi.
Donc dans le domaine médical,
après,
au final.
C'est pas la voix de Steve Hawkins, quoi, c'est la voix de quelqu'un d'autre.
D'accord, ok, très bien.
Mais c'est vrai que je pense que ce truc de « je vais perdre ma voix et c'est ma voix », c'est quand même ma voix que je peux donner à entendre aux autres alors que j'ai plus, moi, je peux plus la manipuler, moi, j'ai plus de conduit vocal. C'est assez intéressant parce que c'est quand même un fake, mais c'est un fake officiel, utile. Voilà. Après, il y a des effets pernicieux parce que ma voix, quand je fais de la synthèse vocale, je vais pas pouvoir contrôler des choses subtiles comme des tout petits bruits de bouche, des petites intonations. Et peut-être que l'autre en face, quand je lui demandais s'il va venir manger avec moi ce soir, il va trouver que je suis pas bien sympa, alors qu'en fait, je voulais être bien sympa, mais j'ai pas réussi à le mettre dans ma synthèse vocale, quoi.
En septembre dernier, des membres du Congrès américain ont alerté le directeur du renseignement national au sujet des deepfakes, soulignant qu'ils pourraient mener à des campagnes de désinformation durant les élections. Il va falloir s'y faire. Les deepfakes vont être partie prenante de notre vie numérique dans les années à venir. La technologie est là et les usages plus ou moins nocifs suivent déjà. Les experts, quant à eux, sont formels. La seule véritable solution pour lutter contre les dérives associées aux deepfakes, c'est nous. Et qui sait ? Nos institutions ? Merci à Lucie Ronfaux et Véronique Auberger pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.